innocent jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit :
Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?
Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus :
Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?
Il leur dit :
Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara :
Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer.
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour :
Serait-ce moi, Seigneur ?
Prenant la parole, il dit :
Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là.
Judas, celui qui le livrait, prit la parole.
Rabbi, serait-ce moi ?
Jésus lui répond :
C'est toi-même qui l'as dit.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit :
Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant :
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit :
Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Prenant la parole, Pierre lui dit :
Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais.
Jésus lui répondit :
Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois.
Pierre lui dit :
Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit :
Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier.
Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors :
Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi.
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait :
Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. »
Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre :
« Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. »
De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait :
« Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. »
Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit :
« Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. »
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe.
« Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. »
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit :
« Salut, Rabbi !»
Et il l'embrassa. Jésus lui dit :
« Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. »
Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit :
Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?
À ce moment-là, Jésus dit aux foules :
Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. »
Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplirent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent :
« Celui-là a dit : je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. »
Alors le grand prêtre se leva et lui dit :
« Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?»
Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit :
« Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. »
Jésus lui répond :
« C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel.
Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant :
Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?
Ils répondirent :
Il mérite la mort.
Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant :
Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?
Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit :
Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?
Mais il le nia devant tout le monde et dit :
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là :
Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen.
De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment :
Je ne connais pas cet homme.
Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre :
Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit.
Alors, il se mit à protester violemment et à jurer :
Je ne connais pas cet homme.
Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit :
J'ai péché en livrant à mort un innocent.
Ils répliquèrent :
Que nous importe ? Cela te regarde.
Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent :
Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang.
Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie : Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea :
Es-tu le roi des Juifs ?
Jésus déclara :
C'est toi-même qui le dis.
Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit :
Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?
Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit :
Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?
Ils savaient en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit
« Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. »
Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit
« Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»
Ils répondirent
« Barabbas !»
Pilate leur dit
« Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?»
Ils répondirent tous
« Qu'il soit crucifié !»
Pilate demanda
« Quel mal a-t-il donc fait ?»
Ils criaient encore plus fort
« Qu'il soit crucifié !»
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant
« Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. »
Tout le peuple répondit
« Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. »
Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant
« Salut, roi des Juifs !»
Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, du calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, il disait
« Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. »
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant
« Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. » Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ».
Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte
« Eli, Eli, lema sabachthani ?»
Ce qui veut dire
« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Mais ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient
« Le voilà qui appelle le prophète Élie. »
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient
« Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. »
Et Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent
« Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. »
Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant
« Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « Trois jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps » et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première.
Pilate leur déclara,
vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez.
Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu.
Autrefois, pour la messe des rameaux, il y avait deux moments bien distincts. Au début, le prêtre était dans une chape rouge, et ensuite, pour la lecture de la Passion, il mettait une chasuble violette. Et vous voyez, c'est un petit peu un signe de ce que représente cette messe. La liturgie de ce dimanche chante à la fois le triomphe messianique de Jésus, qui nous invite à le suivre, mais aussi les humiliations du Christ. Ce sont les deux grands moments de cette messe, la procession des rameaux avec le chant de l'Hosanna et la lecture de la Passion. Cela nous dit qu'il faut être ébloui par le Christ de gloire pour le suivre dans la Passion sans perdre pied. Nous avons besoin de cette lumière pour pouvoir avancer ensuite avec Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire d'être ébloui par le Christ pour entrer dans sa Passion? Une phrase peut peut-être nous aider à le comprendre, c'est ce que dit Jésus aux femmes de Jérusalem. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voyez, c'est peut-être l'un des risques de cette semaine sainte, c'est de se dire, est-ce que j'en fais suffisamment? Est-ce que je suis suffisamment triste? Est-ce que je me lamente suffisamment? Mais il faut commencer par être ébloui par le Christ pour pouvoir le suivre dans sa Passion. Luc au chapitre 9. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. La Passion et la mort du Christ ne sont pas des accidents. Le Christ les a prévus et les a annoncés aux disciples. Jean 10, 18. Ma vie, nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Le Christ rentre librement dans sa Passion. C'est la première chose qui doit nous éblouir alors que nous entrons dans cette semaine sainte. Tout ce que nous allons célébrer, le Christ a voulu le vivre pour nous. Saint Paul dit dans la lettre aux Galates, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Et pourquoi le Christ offre-t-il librement sa vie ? Luc, au chapitre 9, écrit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Ce « il faut », c'est le même « il faut » que Jésus dit aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection. « Esprit sans intelligence. » Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Fils, que le Christ souffrît cela pour entrer dans la gloire? Le Christ aurait pu nous sauver de bien des manières, mais il choisit de nous sauver par la Passion pour au moins trois raisons, nous dit saint Thomas. La première raison qui doit nous illuminer, c'est que la Passion est une démonstration de l'amour de Dieu. C'est la première chose qu'il faut regarder, jusqu'où Dieu nous a aimés. Ne regardons pas d'abord l'extérieur de Jésus. Il faut regarder le sentiment qui habite le cœur du Christ. Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Il l'a fait volontairement, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Romains 5. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. La deuxième raison que donne saint Thomas à la Passion, c'est que le Christ nous montre aussi le chemin dans nos vies. Saint Pierre déclare dans sa première lettre: c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert, il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. C'est-à-dire que dans chacune de nos épreuves, nous pouvons avoir les sentiments qui ont habité le cœur du Christ. Non pas que les épreuves nous configurent au Christ, mais que par l'amour, même dans les épreuves, nous pouvons rejoindre le Christ. Et puis la troisième raison que donne saint Thomas, c'est que la Passion, non seulement bien sûr, nous délivre du péché, mais elle nous justifie, elle nous donne la gloire. C'est par cette offrande libre du Christ que la porte du ciel nous est ouverte. Tout ce que le Christ a mérité, c'est nous qui en bénéficions. Et le Christ l'a mérité au moment où, dans son humanité, il ne pouvait plus rien faire. Vous voyez, ça doit être une lumière pour nous de nous dire, là où l'action du Christ a été la plus féconde, la plus efficace, c'est au moment où le Christ ne pouvait plus rien faire. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a guéri des malades. Mais il n'a rien fait dans sa vie d'aussi extraordinaire que ce qui s'est passé au moment de sa mort. C'est là que plusieurs morts sortent de leur tombeau. C'est là qu'il y a un tremblement de terre. Et pourtant, tout cela n'est qu'un signe. Le signe de la puissance de Dieu qui vient agir là où l'humanité ne le peut plus. Ça veut dire que pour nous, la Passion doit aussi être le point d'appui de notre espérance. Le salut ne tient pas à ce que nous faisons. Le salut tient à l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Et jamais il ne peut être freiné par l'homme. Voyez bien, comme la liturgie nous invitait à le faire, rentrons dans cette semaine sainte, un petit peu comme des enfants, avec nos rameaux, espérant tout, et essayons de rejoindre ce que le Christ a vécu intérieurement, les sentiments qui habitaient son cœur.